BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Midi sur BFM Business, bonjour à tous et bienvenue dans leur H. Leur H à l'heure de Davos, aujourd'hui et toute la semaine avec Edwige Chevrillon sur place et ses invités. Et quels invités aujourd'hui? Un programme exceptionnel vous attend. Dans un instant, nous serons avec Jean-Dominique Sénard, président de Renault et président de l'Alliance Renault-Nissan. Puis à 12h30, c'est le président de JC Deco, Jean-François Deco, qui sera notre invité. Et puis à 12h45, on terminera cette RH 100% Davos avec Christophe Catoire, le patron pour la France et l'Europe du Nord d'Adeco. Voilà donc le programme de la mi-journée. Comme vous le voyez, cette RH est 100% Davos. Cette semaine, c'est Davos comme si vous y étiez. Mais tout de suite, c'est le journal.
BFM Business, le journal. Thomas Asportas.
Et la guerre commerciale repart de plus belle à Davos avec ses déclarations de Donald Trump il y a quelques minutes. Nous taxerons à 25% les automobiles européennes s'il n'y a pas d'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Son secrétaire d'État au Trésor, Steven Mnuchin, persiste et signe. Si l'Europe impose des taxes arbitraires sur nos entreprises du numérique, alors nous imposerons des taxes arbitraires sur les constructeurs automobiles européens. Steven Mnuchin retrouve Bruno Le Maire tout à l'heure à 14h30 pour essayer de trouver un accord sur la fiscalité du numérique. Les deux ministres donneront une conférence de presse à l'issue de cette réunion. Après Bercy et la Banque de France qui évaluent à 0,1 point de PIB l'impact de la grève sur l'activité économique, eh bien l'INSEE nous donne ses propres chiffres ce matin et le climat des affaires n'a que très légèrement reculé en janvier. Il a perdu un point en un mois. Mais dans le détail, la baisse est boulue lourde dans le commerce de détail qui a reculé de 4 points par rapport à décembre. Les services sont restés stables et le bâtiment a progressé de 2 points. Sinon, c'était proposé par la Commission de régulation de l'énergie hier. Eh bien, c'est confirmé par le gouvernement aujourd'hui. Les tarifs réglementés d'électricité vont augmenter de 2,4% et dès le 1er février. L'exécutif explique cette hausse par un rattrapage sur les coûts de fourniture, alors que les tarifs de l'électricité avaient été gelés l'an dernier pendant la crise des Gilets jaunes. Et puis il n'y a pas que les tarifs de l'électricité qui vont augmenter, il y a aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, les salaires des jeunes chercheurs. Annonce faite hier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Frédéric Vidal. Les jeunes chercheurs vont être payés au moins 2 SMIC à partir de l'année prochaine contre 1,3 SMIC à l'heure actuelle. Et puis pour finir, dans l'actualité des entreprises, c'est une information que vous apporte BFM Business depuis ce matin. Le sort d'Isabelle Cochère à la direction d'Engie sera tranché fin février. Déclaration faite par le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, depuis le forum de Davos. Il faut que le groupe s'engage dans une nouvelle étape de sa transformation, dit-il. Et le conseil doit être convaincu de qui est la bonne personne pour mener cette prochaine étape. Fin de citation. BFM Business, il est midi 3. Je vous redonne le CAC à la mi-journée qui est stable à 6045 points et la parité euro-dollar. 1 euro s'échange pour 1,1090 $. Voilà. Rappel des titres à midi 30. Et tout de suite, Edwige Chevrillon avec Jean-Dominique Sénard. À vous, Edwige.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et oui, leur H est toujours à Davos avec mon invité, c'est Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, le président de l'Alliance Renault-Nissan. Jean-Dominique Sénard, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Il fait très beau, ça se voit à Davos, ça se réchauffe un peu. Pourtant, les relations avec les États-Unis et la France et l'Europe, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tension, notamment autour de cette taxe GAFA. À l'instant, Steven Mnuchin, qui est l'homologue de Bruno Le Maire, américain, et Donald Trump ont dit « si on a une taxe arbitraire, on taxera les constructeurs automobiles européens ». Vous êtes moins concernés, évidemment, Renault-Nissan, mais malgré tout, c'est quand même une ombre, une épée de Damoclès sur l'industrie européenne automobile.
Oui, le sujet d'ailleurs n'est pas d'hier, ça fait quelque temps qu'on parle de cette affaire-là. C'est pour ça que je suis un petit peu plus prudent, il faut faire attention à ce qui est une posture de négociation et de ce qui sera la réalité de la vie. En fait, il faut bien comprendre que si nous avons une situation de taxe au niveau où vous l'avez indiqué, il faut comprendre que certainement l'industrie européenne souffrirait, mais je ne suis pas certain que l'industrie nord-américaine serait indemne. Donc il faut quand même faire très attention aux conséquences et avoir le détail.
Oui, on est dans un bras de fer, c'est ça que vous dites. Mais en même temps, il faut tenir le bras de fer du côté européen, pardon. C'est ce que vous dites aux autorités européennes et françaises.
Je crois que c'est du bon sens, en effet, parce qu'encore une fois, une guerre de taxes n'apporte absolument rien de positif. Ça nécessite une réadaptation complète de nos industries qui prendrait du temps. Et franchement, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui.
On va parler bien sûr, Jean-Dominique Sénard, du droit à la retraite de Carlos Ghosn, en tous les cas ce qu'il revendique. On va parler aussi de l'alliance. Ce matin, vous avez déclaré qu'il n'y avait pas de fusion entre Renault et Nissan, mais comment rendre l'alliance irréversible. Mais d'abord, puisque ici on parle beaucoup de climat, qu'est-ce qu'on peut faire? Les constructeurs automobiles, vous êtes confrontés à cette révolution climatique qui est en train de bouleverser presque dangereusement votre industrie, en tous les cas.
Oui, alors je ne sais pas si c'est dangereusement qu'il faut dire, parce qu'en réalité, je vous le dis sincèrement, l'industrie automobile est une solution et pas un problème. Et je crois que vraiment nous le démontrons dans l'alliance, que ce soit chez Nissan ou chez Renault. De façon très simple, nos équipes travaillent avec passion dans leurs usines et nos technocentres pour justement sortir les solutions qui permettront une adaptation de notre industrie aux éléments climatiques. Franchement, nous sommes proactifs. Et je crois qu'il y a eu un débat ces derniers temps sur l'industrie automobile qui n'est probablement pas équitable.
C'est
parce
quoi
que, parce que tout simplement, notre industrie, quelle qu'elle soit, travaille vraiment profondément, mais il faut un peu de temps et beaucoup de ressources pour que les solutions apportées à nos clients correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Écoutez, prenez le cas de Renault. Nous allons sortir des véhicules en 2020 qui, de fait, correspondent exactement aux besoins de nos clients et vont répondre, en fait, aux besoins de l'environnement. Regardez la nouvelle Zoé, elle est formidable. Elle a un parcours extraordinaire. Elle peut aller jusqu'à 385 km. Elle est entièrement électrique. Elle est magnifique. La capture qui va sortir sera hybride rechargeable.
Mais justement là-dessus, oui. Oui,
c'est extraordinaire.
Oui, deux questions par rapport à ça, Jean-Dominique Sénard. Déjà, on s'en souvient des déclarations, pardon, je fais encore référence à lui, Carlos Ghosn, qui croyait au tout électrique, qui disait que 10% des voitures de Renault seraient toutes électriques, je crois que c'est en 2025. Est-ce que vous dites, on est dans le tout électrique ou alors on est dans l'hybride? Est-ce que vous êtes aussi un fervent défenseur de la voiture électrique ou vous pensez qu'aujourd'hui, il faut laisser presque à l'usager le choix de choisir ce qu'il veut comme motorisation?
Je crois qu'il faut faire attention à ne pas être trop définitif sur les années qui viennent, parce que je ne sais pas qui aujourd'hui maîtrise ce qui sera en fait la technologie dominante dans quelques années. En fait, la réalité, c'est qu'il y aura un grand développement électrique. On le voit, les croissances aujourd'hui dans ce domaine-là sont de l'ordre de 40% par an. Alors, sur une base faible, évidemment, on pourrait en reparler, mais une croissance très forte. L'hybride va venir probablement sur les 10-15 ans qui viennent comme une transition assez extraordinaire vers l'avenir et demeurera. Restera peut-être d'autres technologies qui vont sortir, qui sont en train d'être testées. Je pense à l'hydrogène. Nous sommes dans l'électrique, ouais. Mais l'énergie serait l'hydrogène. Je pense que dans l'avenir, en réalité, nous aurons de tout cela. La proportion exacte, franchement, c'est difficile.
Alors, pas exact, mais peut-être un ordre de grandeur, ça va être quoi pour vous?
Peut-être
tel que vous le concevez.
À la fin de tout cela, il y aura beaucoup d'électrique. Je dis, alors quand je dis à la fin, parlons dans les années 2035, 2040, est-ce que ça sera 50 à 60% électrique, 20% hydrogène et 20% hybride? Je prends un pari là, mais c'est vrai que c'est facile à prendre aujourd'hui.
Reste maintenant les problèmes un peu de fond de Renault. Tiens, quand est-ce que vous avez votre nouveau directeur général, donc le spécialiste de l'automobile? Il arrive quand? Luca Di Meo, il arrive quand?
La décision sera prise, j'espère, dans les jours qui viennent. Nous sommes dans les temps de ce que nous étions dit. Il n'y a pas de stress sur cette histoire-là.
Quand même, je veux dire, une gouvernance et une entreprise aussi importante que Renault-Nissan.
Mais elle fonctionne très bien, figurez-vous. C'est la bonne nouvelle, c'est que franchement, aujourd'hui, Clotilde Delvaux, qui est une femme exceptionnelle, a pris son métier à cœur. L'entreprise est gouvernée. L'alliance marche très bien, je suis prêt à vous en parler.
Oh, mais on va en parler, vous inquiétez pas, parce que vous êtes très optimiste, du moins aux yeux de certains, mais c'est ce qu'on va voir.
Vous verrez que j'ai raison.
Chantal Delvaux, vous ne dites pas Luca Di Meo, ça veut dire quoi? C'est plutôt le Chantal Delvaux qui va rester en poste ou quoi?
Clotilde Delvaux dont je parlais.
Clotilde, pardon.
Écoutez, laissez la gouvernance du groupe fonctionner. Elle mérite d'être très ferme, très, très déterminée. Elle travaille et la gouvernance aura à dire ce qu'elle a à dire dans les jours qui viennent. Je vous garantis que je saurai vous en parler au moment venu.
Reste maintenant donc un peu les problèmes de fond sur Renault. Il y a eu quelques loupés sur la montée en gamme de Renault. Est-ce que pour vous, effectivement, vous pensez qu'il y a un virage qui n'a pas été suffisamment pris? Pas votre faute, parce qu'on sait que c'est des investissements de long terme. Et puis, est-ce qu'il faut qu'il y ait peut-être plus de coopération? On fera le lien avec Nissan parce qu'il y a un doute sur les plateformes.
Alors, écoutez, sur Renault...
La montée en gamme, comment y pallier?
La question de la marque Renault est une question qui n'est pas encore totalement tranchée dans son positionnement mondial. C'est justement pour ça, d'ailleurs, que l'alliance a son importance, parce que ça ne peut pas se faire en dehors. La question des véhicules Renault qui sortent aujourd'hui, c'est une question très, très centrale. Il faut effectivement que les véhicules sortent et à temps. Et ce que je suis en train de vous dire par rapport aux annonces que nous avons faites, y compris la Twingo électrique, c'est que ces véhicules maintenant vont sortir à l'heure. C'est tout à fait fondamental, parce qu'en fait, ils répondent aux besoins de consommateurs. Voilà. Après, pour ce qui concerne le passé, je suis mauvais juge. La question des montées en gamme est une question qui
se pose. Mais est-ce que c'est un problème pour vous ?
Pas forcément, dans la mesure où l'Alliance est capable de, parfaitement de s'organiser pour pouvoir justement déterminer qui fait quoi dans cet ensemble.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que peut-être Nissan peut faire de la montée en gamme et que Renault n'a pas besoin forcément de faire de la montée en gamme. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Les questions peuvent se poser, mais elles ne sont pas résolues aujourd'hui. Par conséquent, je vous dis que la stratégie sur ce sujet-là n'est pas définitive. Elle a besoin d'un travail commun qui va avoir lieu dans les mois qui viennent.
Est-ce que pour vous, la priorité chez Renault, hein, d'abord, est-ce que c'est d'arrêter cette course au volume, peut-être qu'a souhaité votre prédécesseur, et qui a un problème de rentabilité ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, quand on sort une voiture, c'est pas la course au volume, c'est à combien on la sort et quelle est sa rentabilité ?
Mais je crois que c'est important ce que vous dites. En effet, moi, je n'ai jamais été un fanatique de la course au volume, si vous voulez. C'est très gentil de courir après des positionnements mondiaux, mais ça ne sert pas à grand-chose si la performance ne suit pas. Et pour tout vous dire, en l'occurrence, pour Nissan surtout, et Renault aussi, ce sujet-là se pose dans ces termes. Donc, je serais ravi de faire beaucoup de volume, bien sûr, parce que c'est important, parce que ça permet de couvrir des coûts fixes, ça permet de couvrir des frais de recherche, nous savons tout cela et ça a beaucoup d'intérêt. Mais y arriver en esquintant, en quelque sorte, la capacité de fixer des prix pour le groupe et pour les véhicules, c'est pas la bonne manière. Je crois que nous devons travailler, et nous le faisons en ce moment, sur la qualité de nos véhicules. C'est à travers la qualité, il ne faut pas sacrifier la qualité de nos véhicules. Toutes les équipes en sont absolument conscientes dans le groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le sujet quasi prioritaire. Tout le reste viendra avec. Vous verrez.
Mais est-ce que vous avez... On a l'impression que vous voulez prendre du temps, Jean-Dominique Sénard. C'est vrai, vous êtes arrivé à un moment extrêmement difficile, mais est-ce que vous avez du temps ? Est-ce qu'il n'y a pas urgence pour Renault ?
Il y a une urgence qui est parfaitement partagée. Il y a une urgence pour Nissan, une urgence pour Mitsubishi. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que tout le monde est conscient de cette urgence. D'ailleurs, qui dans l'industrie automobile aujourd'hui ne ressent pas le sens de l'urgence ? Écoutez, vous avez des relations avec les autres constructeurs automobiles, je crois qu'ils tiennent le même langage. Alors ça peut être plus ou moins aigu en fonction des groupes les uns et les autres, et leur situation géographique et leur situation dans leur gamme. Mais cela dit, tout le monde le ressent. Il y a en face de nous des investissements considérables à faire pour assurer justement la maîtrise des technologies de l'avenir. Il faut que nous travaillions ensemble, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'option. Et rassurez-vous, une des choses fondamentales qui me rend très optimiste aujourd'hui, c'est que justement, ce sens de l'urgence est partagé.
Alors, sens de l'urgence partagé, en même temps, on voit bien, il y a des plateformes communes, je crois qu'il y a deux plateformes communes pour l'instant avec Nissan. Il y a un peu une question de la troisième, où est-ce que vous en êtes ? Et puisque derrière, ce qu'on recherche, c'est les questions d'innovation technologique. Est-ce que chacun n'est pas en train d'innover un peu dans leur coin ? Les Japonais dans leur coin et puis les ingénieurs de Renault dans leur coin.
C'est justement ce qu'il faut éviter.
Oui, c'est ce qu'il faut éviter, mais c'est la réalité.
La divergence est la pire des choses dans l'Alliance. Je pense que nous avons des travaux importants dans ce sens à faire pour que dans l'avenir, il n'y ait aucune forme de divergence.
Comment faire ? Ça passe par quoi ?
Ça passe par une gouvernance de cette alliance qui est en train de se consolider et dont vous verrez dans les semaines qui viennent l'expression de la réalité. Cette gouvernance est solide maintenant, les dirigeants de l'alliance sont tous favorables à l'alliance, ils le disent au quotidien, et d'ailleurs vous voyez quand l'alliance est attaquée par des fausses nouvelles, etc., immédiatement tout le monde réagit dans le même sens, avec vigueur, parce qu'on en a assez d'entendre de mauvaises nouvelles sur cette histoire-là, et surtout ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, vous verrez les dirigeants de ces trois entreprises être parfaitement en phase sur les actions à mener, en particulier sur cette manière technologique. Vous savez, la divergence n'est pas forcément...
Mais ça va être quoi, une décision de lancement de cette fameuse plateforme
Il y en a une autre qui arrive notamment à Douai, qui est absolument extraordinaire et qui a été conçue également avec les équipes de Nissan et qui seront installées en France. Tout ça, ça va dans le bon sens. Il faut accélérer l'histoire. Il faut simplement l'accélérer. Et vous savez une chose, les plateformes communes, c'est bien. Les pièces communes, c'est encore mieux.
Alors justement, vous avez dit ce matin qu'il n'y avait pas de... La fusion entre Renault et Nissan n'était plus du tout d'actualité. Mais non, c'est ce que vous avez dit chez mon confrère de France 2.
Je ne le redirai pas.
La question qu'on peut se poser, c'est comment rendre cette alliance, malgré tout, irréversible ? Parce qu'il y a quand même des forces centripètes, comme on dit.
Oui, je vais vous dire. Je crois que le meilleur moyen de le faire, compte tenu de la circonstance, cette alliance est unique. Hein. Vous le savez très bien, culturellement, mondialement, il n'y en a pas deux comme ça. Je voudrais que, et c'est ce qui est en train de se passer, revenir à l'esprit d'origine. Lorsque Louis Schweitzer a créé cette alliance, il l'a fait sur un angle de compréhension culturelle extrêmement raffiné. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, je vous le dis, c'est non seulement le partage de l'essence de l'urgence, mais la meilleure compréhension entre nos différentes approches en gouvernance et en culture. Et ça, c'est absolument précieux. Je vous le dis, le monde a changé. J'allais dire pour moi, mais pas que pour moi. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 4 ou 5 mois. Aujourd'hui, les réunions du Conseil de l'Alliance, que je rappelle avoir créées il y a quelques mois, n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on avait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et vous verrez, il y aura une traduction concrète de cela. Nous parlons...
Dans combien de temps ? Mais la traduction, ça va être quoi ? Est-ce que ça va être...
Ce sont des réflexions sur comment mener effectivement les travaux sur les futures technologies, comment converger dans l'avenir, comment travailler en commun, comment échanger des équipes, chose qui a été perdue récemment. Il n'y a pas suffisamment d'équipes de Nissan chez Renault. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas assez de Renault chez Nissan. Vous savez, faire tenir une alliance dans la durée, c'est ça aussi. C'est les personnes. Et si on s'occupe de cette question des personnes en s'assurant une bonne transversalité des performances et surtout des compétences, eh bien, croyez-moi, on maintient l'alliance beaucoup plus sûrement que par une fusion.
Donc, pas de fusion, création d'une holding, augmentation des la participation de Nissan dans Renault, comment justement ça va s'articuler ?
Bon, ces questions de participation qui ont beaucoup agité les esprits ces derniers temps, pour moi, ce n'était pas la priorité. Je l'ai dit, je le redis.
Oui, mais pour les Japonais, visiblement, c'était un peu la priorité.
Oui, mais donc, parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres sujets, je dirais, à traiter. Et puis parfois, ça a été mis en exergue.
Donc ce n'est plus l'ordre du jour, pour être précise.
Ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, tout simplement parce que la priorité est industrielle. Et vous l'avez bien compris, toutes les actions communes que nous allons mener dans l'avenir vont être d'organiser beaucoup plus fortement notre convergence industrielle, nos travaux sur nos usines, nos travaux sur nos programmes de véhicules et nos travaux sur l'ingénierie. Ça, c'est la clé. Après, je veux dire, on peut toujours évoquer des questions de participation croisée et autres. Rien n'est figé dans l'avenir. Je vous le dis franchement, mais rien n'est figé. Mais ce n'est pas la priorité du moment.
Il y a une chose, dans tous les cas, pas la priorité du moment en semaine, en mois, ou alors peut-être ça peut revenir dans la discussion.
Vous savez, rien n'est figé dans l'avenir. Je n'ai aucune notion de temps sur cette affaire-là. La priorité n'est pas là.
Sur le dossier fusion avec Fiat Chrysler, on a vu les déclarations de Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse, j'imagine que vous l'avez quand même suivi, où il dit « j'étais quasiment sur le point de signer, j'avais rencontré John Elkann, le patron de Fiat, et simplement je n'ai pas pu signer parce que j'ai été arrêté ». Est-ce que c'est vrai que c'était sur le point d'être signé et vous-même, vous avez voulu reprendre cette négociation et avec en tous les cas, l'État qui vous a mis des bâtons dans les roues. Est-ce que vous avez un grand regret là-dessus ? Est-ce que vous dites quand même...
Vous savez, l'histoire du passé, comme je ne l'ai pas connue, je suis incapable de la commenter.
Donc, vous avez quand même accès aux documents, j'imagine quand même, en tant que président de Renault.
Non, mais je m'abstiendrai parce que je pense que ça n'a strictement aucun sens. La réalité, c'est ce que c'est, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai soutenu ce projet, vous le savez, d'ailleurs je ne vais pas renier ce que j'ai dit il y a quelques mois. Je pense que c'était un beau projet pour l'Alliance, bon projet pour Nissan, en particulier à cause de la partie Amérique du Nord. Bon, voilà. Les circonstances ont fait que cette affaire ne s'est pas faite. Je ne vais pas vivre avec des regrets en permanence. Ce n'est pas mon genre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de travaux à faire ensemble dans l'Alliance. Et si ça a servi à la limite de booster pour l'Alliance, pardonnez-moi l'expression, eh bien, tant mieux. Parce que du coup, ça a probablement accéléré le sens de l'urgence. Le monde automobile est en train de changer. Vous savez, des combinaisons d'écosystèmes automobiles, on n'a pas fini d'en voir. Il y en aura d'autres. Ce qui compte pour moi, c'est que l'alliance que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui redevienne très attractive. Et vous verrez que si j'ai raison, dans quelques temps, j'espère en 2020, 2021, et bien à ce moment-là, les combinaisons automobiles se recréeront autour de l'alliance. Et c'est ça qui compte le plus pour moi.
Vous demandez combien de temps, justement, Jean-Dominique Sénard ? Est-ce que, d'abord, l'année 2019, ça sera... Tout ce qu'on a vécu, vu, tout ce que vous avez regardé, ça va se traduire dans les comptes, forcément.
Écoutez, on n'est pas dans cette question-là, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler des résultats du groupe, donc je ne vous en parlerai pas, il ne faut pas m'en vouloir. Nous sommes juste dans une période grise. Je pense que si vous voulez, y compris pour Nissan, il y a un certain nombre d'éléments qui sont d'ailleurs publics, qui relèvent du passé. Je veux pas trop...
Qui ont même été peut-être à l'origine de cette affaire.
Peut-être, si vous le dites. Mais... Je pense que vous me demandez combien de temps. Et c'est toujours délicat, parce qu'il n'y a rien de pire que de vous dire bah, « donnez-moi 5 ans », ça n'a pas de sens. Je voudrais que dès 2020, on ait la perception, d'abord, que l'Alliance n'est pas en retrait, mais totalement dynamique. Et là, par l'expression même de ses dirigeants, mais surtout de façon très concrète dans les équipes, groupes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de travailler ensemble. Je vous assure, c'est incroyable. Dès 2020. Et si on pouvait en avoir des signaux en économie, tant mieux. Et je pense que derrière, la mécanique vertueuse va s'enclencher. Et vous voyez, je ne demande pas tellement de temps, mais les toutes premières années qui viennent devraient le marquer. Et ça, écoutez, pour moi, aujourd'hui, si nous réussissons ce que je viens de vous dire, eh bien, je le garantis que ça arrivera.
On a compris encore deux questions, je nommais Xenar. On a compris que pour vous, c'était vraiment votre priorité, c'était refaire fonctionner l'Alliance. Oui. Mais ensuite, sur le plan industriel, quelle est votre priorité ? Parce que c'est là où on vous attend aussi, puisque certes, vous avez un directeur général qui va peut-être arriver, mais enfin, c'est aussi, vous êtes le patron de Renault et de Renault-Nissan. Votre priorité industrielle, c'est quoi ?
Fondamentalement, que nos capacités d'usine, en quelque sorte, pour être très, clair, très concret sur l'aspect terrain, soient suffisamment, je dirais, capables d'affronter les soucis de l'avenir. La transformation technologique que nous comprenons aujourd'hui a des conséquences majeures dans nos propres usines. Je prends l'usine de Cléon, par exemple, qui aujourd'hui est en train de se transformer d'une usine qui fabriquait des moteurs, anciens modèles, aux moteurs électriques. Vous voyez que cette transition est complexe, elle est en train de se faire très intelligemment, et en même temps, toutes nos usines sont en train de connaître une forme de révolution numérique. Alors la priorité pour moi, c'est la capacité d'adapter la période que nous allons traverser à ce que nous attendons dans 2-3 ans. C'est-à-dire des formations considérables, s'assurer que les gens aient la capacité d'avoir une employabilité qui va bien dans l'avenir. Faire en sorte que les structures d'usine que nous avons soient suffisamment fortes pour que nous n'ayons pas trop de difficultés à couvrir nos frais fixes. Vous voyez que le programme est énorme et que ce n'est pas un sujet industriel, c'est un sujet beaucoup plus global qui ne peut être traité que dans le cadre de l'Alliance. Voilà, vous m'avez posé une question simple, la réponse est plus complexe, tout simplement parce que l'industrie, c'est un sujet compliqué, et surtout pour l'industrie automobile aujourd'hui. Voilà, nous avons une responsabilité énorme sur nos épaules, celle de prévoir cette transition technologique, et par conséquent s'occuper des personnes, parce que finalement c'est quand même ça qui compte.
Oui, en même temps les personnes, il y a de plus en plus de personnes, de citoyens qui n'ont plus envie d'avoir des voitures. Pour vous, l'industrie automobile, elle va connaître elle va diminuer de combien la production industrielle?
Alors là, voyez-vous, je ne serais peut-être pas tout à fait à l'aise avec votre hypothèse, parce qu'en réalité dans le monde, il y a une demande de mobilité croissante.
Oui.
Elle est croissante, en Afrique, en Asie, une grande partie de la Chine, en Amérique latine. Et si vous regardez les tendances actuelles, en réalité, on a une croissance de la demande de mobilité. Alors après, il y a le mode de transport qui est une autre chose. Et là, clairement, dans certaines régions du monde, en Occident et en Europe en particulier, on voit ces changements. D'ailleurs, Renault n'est pas absent de ça. Si je vous disais que nous sommes probablement le numéro un mondial dans le car sharing en Europe aujourd'hui, avec 7000 véhicules à disposition à Madrid, à Paris, à Barcelone. Enfin, écoutez, là-dessus... oui, la modalité change, mais on s'y adapte. Voilà. Dans le reste du monde, vous verrez encore beaucoup d'accession à la mobilité, à la volonté de la propriété automobile, tout simplement parce que ça fait partie de la perspective normale. Je rajoute une chose, c'est que dans les années qui viennent, la croissance sera urbaine. Quand je pense à l'Afrique, il faut penser l'urbain. Il y aura des grandes mégalopoles dans cette région-là. Il faut préparer la mobilité urbaine du futur.
Voiture autonome ?
Oui.
On a l'impression que ça marque le pas.
Oui, vous savez, il faut
toujours... Vous y croyez, vous, Jean de Mexenar, à la voiture autonome ?
J'y crois, mais je suis d'accord pour vous dire que ça peut prendre un certain temps, comme on dit en Auvergne autrefois, parce que, en réalité, vous voyez bien, même pour le véhicule électrique, on avait envisagé en 2010 que ça irait massivement dans les années 2020. Nous sommes en 2020 et vous savez où nous en sommes. Le véhicule autonome viendra, mais très honnêtement, dans sa version la plus optimisée, si je puis dire, je ne la vois pas à l'horizon des 10 ans qui viennent.
Toute dernière question. L'État actionnaire, est-ce que, après toutes ces vicissitudes, que ça soit dans le cadre, évidemment, du bras de fer avec Nissan et de l'affaire Carlos Ghosn, où lui-même a dit que tout est parti, le séisme a été fait en 2015 avec la loi Florange, l'intervention d'Emmanuel Macron, alors ministre à Bercy. L'histoire de FCA, pour vous, on a vu que c'était quand même l'État qui vous avait, en l'occurrence Bercy, là encore, qui vous avait un peu bloqué. Est-ce que vous dites à un moment, si jamais je réussis tout ce que vous venez nous expliquer, je trouve que l'État pourrait baisser sa participation, ça sera plus facile.
Écoutez, c'est pas moi qui vais décider ça.
Non,
L'État
mais...
est souverain et est un des principaux actionnaires de Renault, chacun le sait. Et
mais est-ce que c'est un handicap ?
Je vais vous dire une chose. Les relations entre Renault, son président, et l'État sont aujourd'hui excellentes.
Vous avez dit le président, j'ai bien noté, président. Donc ça ne veut pas dire le ministre, le président.
Le président de Renault.
Ah bon, d'accord, je croyais parler le président, parce qu'on sait que vous avez des bonnes relations avec Emmanuel Macron.
Mais franchement, écoutez, vous cherchez toujours. Non, les relations avec l'État sont excellentes aujourd'hui, je vous le démontre au quotidien. Et pour tout vous dire, ce n'est pas parce qu'on se parle franchement qu'on a une mauvaise relation. Je pense que la relation entre actionnaires, management d'entreprise gagne à la transparence et à la franchise. Chaque fois que c'est l'inverse, ça se termine toujours très mal.
Est-ce que vous attendiez à ce que ça soit aussi difficile chez Renault ?
Non. Je pensais que ça serait plus facile.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup à Jean-Dominique Sénard d'avoir été avec nous, président de Renault, président de Renault-Nissan, et qui est toujours en attente de son directeur général ou de sa directrice générale, en tous les cas de la nomination.
Très bien.
Dans les prochains jours, vous nous avez dit.
Oui, ça ne va pas être trop long.
Merci beaucoup. Voilà, on est toujours en direct de Davos. On se retrouve avec Jean-François Decaux, président du directoire de JC Decaux, qui sera mon invité. Puis après, c'est le patron d'Adeco qui sera avec nous.
Eh bien, ça nous fait un bon programme. Edwige, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, effectivement, d'ici une petite dizaine de minutes. Et merci à Jean-Dominique Sénard d'avoir été notre invité à Davos avec pas mal d'annonces à la clé, effectivement. Edwige, je vous le récapitulier. Le nom du patron de Renault, notamment, qui devrait être connu dans les jours qui viennent. À tout à l'heure, Edwige, avec vos invités. Donc, Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JC Deco. Et puis Christophe Catoire, président France et Europe du Nord d'Adeco. On parlera évidemment avec lui de formation, un des sujets clés bien sûr, à Davos. A tout de suite après la pub.
BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Deuxième partie de l'heure H, et avant de retrouver Edwige Chevrillon et ses prochains invités à Davos, Jean-François Decaux, président du directoire de JC Decaux, et Christophe Catoire, président France et Europe du Nord d'Adeco. On fait le point sur l'actualité à la mi-journée. Et la guerre commerciale repart de plus belle à Davos avec ses déclarations il y a quelques minutes de Donald Trump. Nous taxerons à 25% les automobiles européennes s'il n'y a pas d'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Son secrétaire d'État au Trésor, Steven Mnuchin, persiste et signe si l'Europe impose des taxes arbitraires sur nos entreprises du numérique, alors nous imposerons des taxes arbitraires sur les constructeurs automobiles européens. Steven Mnuchin retrouve Bruno Le Maire tout à l'heure à 14h30 pour essayer de trouver un accord sur la fiscalité du numérique. Une conférence de presse sera donnée à l'issue de cette réunion. Après Bercy et la Banque de France qui évalue à 0,1 point de PIB l'impact de la grève sur l'activité économique, l'INSEE nous donne ses chiffres ce matin. Et l'INSEE nous dit que le climat des affaires n'a que très légèrement reculé en janvier. Il a perdu 1 point en un mois. Mais dans le détail, la baisse est beaucoup plus lourde dans le commerce de détail qui a reculé de 4 points par rapport à décembre. Les services sont restés stables et le bâtiment a progressé de 2 points. Sinon, c'était proposé par la Commission de régulation de l'énergie hier. Eh bien, c'est confirmé par le gouvernement aujourd'hui. Les tarifs réglementés d'électricité vont augmenter de 2,4% et dès le 1er février. L'exécutif explique cette hausse par un rattrapage sur les coûts de fourniture, alors que les tarifs de l'électricité, vous vous en souvenez, avaient été gelés l'année dernière pendant la crise des Gilets jaunes. Et puis, il n'y a pas que les tarifs de l'électricité qui vont augmenter. Il y a aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, les salaires des jeunes chercheurs. Annonce faite hier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Les jeunes chercheurs vont être payés au moins 2 SMIC à partir de l'année prochaine, contre 1,3 SMIC à l'heure actuelle. Au total, le gouvernement va dépenser 118 millions d'euros l'année prochaine pour revaloriser les salaires des chercheurs et des universitaires. Dans l'actualité des entreprises, c'est une information que vous apporte BFM Business depuis ce matin, le sort d'Isabelle Kocher à la direction d'Engie sera tranché fin février. Écoutez Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, il était au micro d'Edwige Chevrillon ce matin, justement à Davos.
Il faut s'attendre à l'évidence et une décision. C'est une date qui est connue depuis longtemps et on a commencé à l'été dernier un processus d'évaluation. Le fait de nommer, au cas d'espèce de renommer un dirigeant pour un nouveau mandat de 4 ans, c'est une décision essentielle pour un conseil.
Oui, mais là, c'est sur
elle
la place publique comme jamais dans un CAC 40, vous êtes d'accord?
Elle doit être bien préparée. Oui. Et malheureusement, il y a eu un certain nombre d'indiscrétions qui ont porté ce sujet sur la place publique. C'est dommage, mais je peux vous assurer
que la sérénité... Est-ce qu'il y a un problème de bilan? Sur la transformation du groupe Engie.
Mais je crois qu'à...
c'est ça qu'on a envie de savoir.
Il n'y a jamais de bilan parfait.
Le cours de bourse, il y a un problème de cours de bourse.
Il n'y a jamais de bilan parfait. Donc on est dans une situation dans laquelle un certain nombre de choses ont été très bien faites. Et puis il reste plein de choses à faire. Il faut que le groupe s'engage dans une nouvelle étape de sa transformation et il faut simplement que le conseil se convainque de qui est la bonne personne ou le bon profil pour mener cette prochaine étape. Et on mène aujourd'hui ce dialogue dans le calme et la sérénité,
avec effectivement
une décision attendue à la fin du mois de février.
Jean-Pierre Clamadieu au micro d'Edwige Chevrillon à Davos. Dans le reste de l'actualité, un an après l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens, eh bien le groupe français envisagerait désormais de se rapprocher de Bombardier. C'est en tout cas ce que croit savoir Bloomberg, qui affirme que les deux groupes discutent depuis plusieurs mois. Les deux actions sont en hausse à la mi-journée et celle d'Alstom est même à son plus haut depuis 10 ans. Le bilan du coronavirus s'alourdit. À ce stade, le virus a fait 9 morts et plus de 440 cas ont été signalés en Chine, mais aussi en Corée du Sud, en Thaïlande, au Japon et aux États-Unis. La presse locale affirme qu'un nouveau cas de contamination est aussi apparu à Hong Kong. Puisqu'on parle de Hong Kong, Burberry, l'une des marques de luxe, évidemment très exposée depuis des mois aux manifestations sur place, eh bien affirme que ses ventes ont progressé malgré tout au dernier trimestre 2019 de 3%. Du coup, Burberry revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels. Et puis un nouveau rebondissement politique se profile en Italie, si l'on croit la presse nationale. Luigi Di Maio devrait annoncer tout à l'heure sa démission du mouvement 5 étoiles. Il resterait ministre des Affaires étrangères, mais cette information fait quand même remonter depuis ce matin les taux des obligations italiennes. La démission de Luigi Di Maio interviendrait alors que la gauche italienne joue gros ce dimanche face à l'extrême droite de Matteo Salvini dans un scrutin régional en Émilie-Romagne. Et puis pour finir, Netflix peut dire merci à l'international puisque c'est en dehors des États-Unis que le service de streaming est allé chercher ses nouveaux abonnés au quatrième trimestre. En tout, Netflix a recruté 8 800 000 nouveaux abonnés au dernier trimestre, mais seulement 550 000 sur son principal marché américain. Apple et surtout Disney commencent donc visiblement à peser face à Netflix aux États-Unis. BFM Business, il est midi 3. Je vous redonne le CAC à la mi-journée et le CAC est toujours stable à 6045 points. La parité euro-dollar, 1 euro s'échange pour 1,1083 $. Voilà, on marque une très courte pause et on retourne à Davos où Edwige nous attend avec ses prochains invités. Jean-François Decaux, patron de JC Decaux et Christophe Catoire, patron pour la France et l'Europe du Nord d'Adecco. A tout de suite.
BFM Business, l'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean-François Decaux, le président du directoire de JC Decaux. Bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être avec nous ici à Davos. Jean-François Decaux, la conjoncture, vous êtes leader mondial de l'affichage extérieur, on va le rappeler, extérieur, on est à l'extérieur, il fait un peu froid, hein, du reste. Comment on voit bien qu'il y a des hauts, des bas, comment est-ce que vous l'apercevez? C'est important pour vous?
Écoutez, notre secteur gagne des parts de marché dans de nombreux pays. Nous représentons aujourd'hui collectivement à peu près 8% de la publicité mondiale. JC Decaux, on est le leader. L'an dernier, nous avons eu un très bon début d'année jusqu'au mois de juin. Et après, la situation est devenue plus compliquée, notamment avec les événements à Hong Kong, une ville dans laquelle nous avons une forte présence. Et donc, le deuxième semestre a été un peu moins bon, malgré une bonne dynamique aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.
Mais au-delà peut-être de, parce que c'est important pour vous, la conjoncture économique mondiale, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour 2020 et pour les années qui suivent ou pas, ou vous attendez quand même, avec ces tensions géopolitiques, un coup de frein?
C'est toujours très difficile, mi-janvier, à prédire ce qui va se passer sur l'ensemble de l'année. La publicité, évidemment, très dépendante de la conjoncture. Aujourd'hui, on ne voit pas véritablement de différence avec le dernier trimestre de l'année dernière. Le Moyen-Orient, par exemple, on a fait une bonne année l'an dernier, malgré les tensions géopolitiques. Donc, pour l'instant, on ne voit pas véritablement de changement, si ce n'est que la situation ne s'améliore pas vraiment sur Hong Kong. Et sur la Chine, on a également un début d'année un peu difficile. Mais c'est notre premier marché et les choses...
Un peu difficile, ça veut dire quoi? On l'a bien vu, coup de frein sur la croissance chinoise, hein, en dessous des 6%. Vous me direz, c'est un peu difficile d'avoir une vraie statistique, mais on est quand même en dessous des 6%. Comment est-ce que vous voyez l'impact pour vous?
Écoutez, nous sommes dans une position forte en Chine. Nos aéroports continuent de bien marcher, avec notamment toutes les grandes marques du travel retail qui investissent énormément pour capter l'attention du consommateur chinois. Et sur les métros, c'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas plus difficile que l'an dernier. Donc on pense qu'on a touché le bas l'an dernier et que maintenant ça ne peut que remonter.
Ici, il y avait un maître mot qui était la mondialisation. On était au cœur de la mondialisation au Forum économique mondial. Maintenant, c'est presque devenu un gros mot. On voit que même le professeur Schwab ne l'a pas mentionné une seule fois. On ne parle plus de mondialisation. On est plutôt, pas sur le protectionnisme, on va peut-être pas jusque-là, mais quand même une relocalisation. Ça a un impact pour vous, pour JC Decaux?
Écoutez, nous sommes un groupe global, oui, présent dans 82 pays, mais dans la plupart des pays, nous avons des partenaires locaux. Donc nous avons toujours agi globalement, mais avec toujours une forte présence locale, avec des partenaires locaux.
Est-ce qu'il y a une tendance à ça? Vous la ressentez? Est-ce qu'il y a une exigence, peut-être, lorsque vous implantez dans un pays où vous avez de nouveaux contrats?
Elle a toujours existé chez nous, dans la mesure où nous prenons des concessions sur le domaine public, et que donc la décision est souvent politique, raison pour laquelle nous nous associons depuis plus de 30 ans avec des partenaires locaux.
Oui. On parlera évidemment de la France et peut-être de Paris dans un instant. L'affichage, on voit que la transformation digitale a complètement impacté votre métier. Et en même temps, l'affichage, c'est vraiment le média historique qui résiste le mieux aux plateformes. Comment vous expliquez ça?
50% de la population mondiale vit dans les villes. Ce chiffre va passer à 75%. Les gens passent de plus en plus de temps dans les transports en commun. Vous passez à peu près 30% de votre vie à l'extérieur de votre domicile. Nous sommes présents dans les grands aéroports, dans les grands métros, dans les grandes villes. Et c'est la raison pour laquelle notre audience continue de croître et que nos espaces, quelque part, bénéficient d'une certaine rareté dans la mesure où on réduit dans de nombreux aéroports le nombre de surfaces publicitaires, comme à Charles de Gaulle par exemple, pour mettre du digital. Et donc, less is more. On a des emplacements plus efficaces et moins de publicité. Et donc, cette rareté bénéficie également à notre secteur.
C'est-à-dire que vous dites moins nombreux, plus cher, j'imagine. Mais c'est il y a une tendance, il y a un phénomène où on dit un peu ras-le-bol de l'affichage. Hein. Vous en avez pris conscience?
Oui, vous savez, mon père a inventé le concept du mobilier urbain. Et d'ailleurs, puisque c'est ma 24e participation à Davos, en 2002, Davos avait lieu à New York. Et Michael Eisner, le patron mythique de Disney, m'avait dit « Les Américains ont inventé, monsieur Decaux, la publicité et le marketing. Vous avez réinventé la publicité dans la rue en apportant véritablement un service esthétique et utile aux gens. » Et donc, c'est la raison pour laquelle, hormis quelques individus, la publicité est bien acceptée, y compris en Suède, dans le pays de Greta Thunberg.
Vous avez un petit clin d'œil. Vous avez combien d'écrans digitaux aujourd'hui?
Un peu plus de 35 000, ce qui représente à peu près 3% de notre parc publicitaire mondial.
C'est très peu.
Ça représente déjà quasiment 25% de notre chiffre d'affaires.
Oui. Et vous allez, quand est-ce qu'il n'y aura plus que des affichages digitaux?
Non, je pense que la digitalisation va continuer à progresser. Dans certains milieux, comme notamment le point de vente, où par exemple en France nous avons la concession de Monoprix, et nous sommes à 100% digital. Dans les aéroports, nous sommes entre 50 et 60% digital. Mais il y aura toujours de la place pour l'affichage traditionnel, qui continue à être le dernier média de masse, compte tenu de la fragmentation de l'audience sur les supports tels que la télévision par exemple, ou l'Internet.
Juste une question par curiosité, combien coûte un affichage digital par rapport à un affichage classique?
Écoutez, tout dépend de comment il est acheté. S'il est acheté de manière traditionnelle, c'est-à-dire en réseau, pour avoir une couverture globale, il peut coûter 2 à 3 fois plus cher. S'il est acheté de manière ciblée, puisque maintenant nous avons accès à des données sur l'audience, là, il peut coûter entre 10 et 15 fois plus cher.
Alors justement, ça c'était la question très très importante. Il y a la RGPD en France, mais qui n'existe pas partout. La protection des données personnelles, ceux qui s'en inquiètent, à juste titre, qu'est-ce que vous leur répondez? Ou du moins, vous pouvez les rassurer sur quoi?
Rassurer sur le fait que nous agrégeons les données, c'est-à-dire que l'idée c'est ne pas cibler une personne en particulier. De toute façon, le média n'est pas fait pour ça. Quand vous êtes sur les Champs-Élysées ou sur la 5e avenue, vous touchez des centaines et des centaines de personnes. Donc l'idée c'est pas de toucher une personne en particulier, celle-là vous la touchez avec l'iPhone, c'est de toucher un nombre de personnes, mais d'identifier les groupes de personnes qui sont plutôt le matin, le midi ou le soir dans ces avenues et pour pouvoir offrir aux annonceurs des cibles potentielles.
Mais est-ce que vous collectez des données personnelles?
Non, nous ne collectons pas des données personnelles. Nous collectons les données sont toutes agrégées et donc nous n'avons pas de données personnelles.
J.C. Decaux, c'est aussi le mobilier urbain. Est-ce que des abribus écolos, ça
existe. Nous sommes en train de développer des toits végétaux avec un système donc d'absorption du CO2 et un système de filtrage qui amènera un air plus sain. Je dirais l'air des montagnes de Davos sous les abribus de Paris, c'est pour demain.
Et pour demain, ça veut dire quoi? C'est quand même un changement énorme.
Donc nous travaillons sur un prototype qui sera probablement prêt dans le courant du mois de septembre.
Et donc, et tous les abribus parisiens, JC Deco, vont être transformés en abribus écolo.
Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Ça dépend également de la volonté de la mairie. Nous avons un contrat qui dure encore quelques années. Et c'est un gros investissement, et donc cet investissement ne peut pas être fait sans soit une extension du contrat, soit un nouveau contrat.
Avec notamment peut-être de l'affichage digital qui peut permettre certaines choses.
Qui pour l'instant est interdit dans, dans Paris.
Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question.
Tout à fait. La digitalisation pourrait faciliter ce genre d'innovation et faire des abribus plus écologiques.
Quels sont vos rapports, on sait qu'ils ont été tumultueux, avec la mairie de Paris? Je fais un peu de provocation, vous savez comme moi, il y a des municipales dans deux mois. Qu'espère JC Deco peut-être retrouver sa place de Vélib? Comment est-ce que vous voyez votre avenir à Paris?
Écoutez, nous sommes toujours concessionnaires à la fois des abribus, des colonnes Maurice, enfin, des colonnes Maurice, des kiosques à journaux. Donc nous avons encore une présence très forte.
Les kiosques à journaux, il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent contre les nouveaux kiosques à journaux. Oui, en disant qu'ils ne sont pas pratiques, ils ne sont pas beaux.
Ah bon, écoutez, c'est le choix de la ville de Paris au niveau du design. Plusieurs designs ont été proposés. C'est quelque chose qu'il faut dire à Madame Hidalgo. Mais en ce qui concerne donc, notre présence sur Paris, elle est encore très forte. Moi, je regrette simplement que la ville de Paris ait déconnecté les Vélib de la concession publicitaire. On voit le résultat. Maintenant, les contrats vont revenir bientôt en appel d'offres.
C'est quand?
Écoutez, pour le contrat des mobiliers urbains d'information qui a été attribué à notre concurrent américain, il revient déjà dans 3 ans en appel d'offres.
Et le Vélib?
Le Vélib, pour l'instant, le prestataire actuel ne respecte pas ses engagements. Donc, c'est à la ville.
Il y a une amélioration.
Il y a une amélioration, mais ils sont encore nettement en dessous des 300 000 abonnés que nous avions à l'époque. Mmh. Et ils n'ont toujours pas les 23 000 vélos que nous opérions jusqu'à la fin 2017.
Vous seriez prêt à revenir? Vous espérez revenir?
Tout à fait.
D'une manière ou d'une autre.
Nous avons lancé hier la batterie amovible, sur les vélos de Lyon, qui est une innovation majeure. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours très en pointe sur ce système de vélo en libre-service. Je vous rappelle quand même que c'est une innovation que nous avons lancée à Vienne en 2003, donc il y a 17 ans. Nous avons été les premiers à faire du partage, du vélo en partage, partagé. Et d'ailleurs, c'est une innovation qui est une révolution mondiale. Aujourd'hui, vous avez des vélos en libre-service dans toutes les villes au monde. Et ça, c'est une innovation JC Deco qui a véritablement connu son envol grâce au Vélib à Paris en 2007. Et c'est vraiment contribution au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villes comme Lyon où les gens prennent moins leur voiture grâce à un système de transport intégré avec le vélo qui vous permet de faire le dernier trajet.
Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être en conclusion, qu'il se passe vraiment quelque chose? Alors, j'ai toujours la question un peu rituelle que je pose, mais il y a un moment, on va bien passer dans l'action pour reprendre les propos de Greta Thunberg ici.
Oui, bien sûr. Vous savez, souvent, il y a des grandes déclarations de fait, et derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, quelque part, elle a un petit peu raison. Par exemple, sur l'attribution de nos concessions publicitaires de mobilier urbain, c'est rare que le développement durable soit pris en compte. Il a été pris en compte, par exemple, dans l'appel d'offres de Copenhague, où 20% de la note qui fait que vous gagnez ou vous perdez l'appel d'offres, était sur le développement durable. À Paris, sur la concession qui a été attribuée à notre concurrent américain, 0% sur le développement durable.
Ouais. Voilà, c'est ça, il faut une mesure, c'est ce que disent tous les chefs d'entreprise qui sont à notre micro. Il faut trouver une manière de mesurer l'importance de ce critère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-François Deco, président du directoire donc, de JC Deco. Dans un instant, c'est le patron d'Adeco France qui sera avec nous. On parlera de formation.
Du lundi au jeudi sur BFM Business, avec After Business, le Late Show Echo, découvrez tout ce que le business a fait de sa journée. 2 heures de direct pour se faire une autre idée du business. Paris, New York, Pékin. After Business part à la découverte des dernières tendances et innovations. After Business, présenté par Stéphanie Collo, du lundi au jeudi, 22h minuit, sur BFM Business. BFM Business, l'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon.
Notre invité maintenant, c'est Christophe Catoire, qui est le président d'Adeco France et aussi de l'Europe du Nord. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à avoir avec Adeco. Adeco, c'est le leader mondial du recrutement. Problème de formation énorme. Ici, vous en parlez à Davos. Et vous avez pris des engagements. Vous avez pris des engagements pour former des jeunes au climat, à l'urgence climatique. Vous avez pris quoi comme engagement ici?
En fait, on a pris un premier engagement. On l'a d'ailleurs pris d'abord à Versailles lundi, et qui est un engagement de pouvoir former 1 million de personnes sur les 10 prochaines années. Parce qu'on a un problème en fait de compétences qui ne correspondent pas toujours à ce qui est attendu. Et pour cette année, puisque il faut aussi voir le court terme, on s'est engagé à investir plus de 100 millions sur 45 000 personnes en France pour les doter d'une nouvelle compétence.
Oui, en fait, vous partez d'un constat, c'est que vous avez beaucoup de mal à recruter des gens. Et il y a un besoin. On voit bien, les entreprises nous le disent beaucoup sur BFM Business. Il y a un besoin incroyable de recrutement. Et donc vous dites, on les trouve pas, donc on va les former. C'est ça?
Oui, c'est ça.
La démarche.
Le constat simple de 2019, c'est que on a fait travailler 700 000 personnes en France, mais il y a 100 000 missions pour lesquelles on n'a pas trouvé de candidats. Et 100 000 missions, c'est autant de gens qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui sont au chômage, donc c'est 8,6% de taux de chômage qu'on a en France. Et de notre côté, c'est beaucoup d'entreprises pour lesquelles on ne trouve pas à satisfaire leurs besoins de croissance. Voilà, c'est le principe.
Quels sont les types de formations, justement, où il y a vraiment pénurie d'emplois? En France, on va rester en France, après peut-être que vous pourrez faire une comparaison internationale.
Ouais, vous allez voir, beaucoup sont communes, en fait, entre l'international et la France. Alors, il y a celles dont on parle peu ou pas, et malheureusement, ce sont les plus importantes. Je vais prendre les conducteurs de camions. C'est la première pénurie qu'on trouve au niveau mondial et en France. Et parfois, ça fait sourire parce qu'on parle beaucoup de véhicules autonomes, mais pour l'instant, en tout cas, il y a une vraie problématique. On va parler de conducteurs de machines, puisque l'industrie s'automatise beaucoup. On va parler d'aides-soignants. Donc, vous voyez, on va dans des secteurs d'activité très différents et pour lesquels, là, on est dans des métiers dits traditionnels. Et en face de ça, on a beaucoup de métiers nouveaux pour lesquels on essaie de trouver des réponses. Les métiers du numérique, pour lequel on a beaucoup de difficultés à trouver tous ces spécialistes du numérique, ce qui justifie qu'on ait racheté d'ailleurs un des leaders mondiaux qui s'appelle General Assembly pour faire ça. Et on va trouver également des métiers, on parle beaucoup d'écologie ici à Davos, les métiers de l'écologie, on s'attend...
C'est quoi les métiers de l'écologie?
En fait, je vais être très simple, c'est à la fois des nouvelles énergies. Dans l'automobile aujourd'hui, on voit bien que les nouvelles énergies, c'est plutôt à court terme l'électrique, et à moyen terme, on va parler d'hydrogène. C'est des grands groupes comme Engie en France qui est en train de faire une transformation majeure.
Oui, Jean-Pierre Clamadieu était mon invité ce matin.
Et il a dû l'évoquer.
Conseil d'administration.
Et c'est un sujet important parce que souvent on va parler des technologies, de l'automatisation qu'on met derrière, mais on a derrière des besoins de compétences. Et la formation initiale, en fait, ne prépare pas à ces compétences parce qu'elles sont nouvelles. Et la formation initiale n'arrive pas à suivre le rythme des transformations d'entreprise, ce qui est un vrai enjeu.
Et alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que c'est vous qui payez la formation? C'est vous qui décidez quelle formation? Parce que il y a aussi Muriel Pénicaud qui sera de la ministre du Travail, qui sera aussi notre invitée. Elle a créé, maintenant, les centres d'apprentissage sont faits avec les entreprises. Donc, il y a tout un système qui est en train de se mettre en place. Comment ça s'articule?
Alors, je vais être très concret. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on va investir cette année plus de 100 millions d'euros en France sur la formation des demandeurs d'emploi et des personnes qui sont en transition professionnelle. 40 millions sont autorisés par le fait qu'on a développé le CDI intérimaire qui permet d'investir 10% en fait de la masse salariale en formation, ce qui est quand même un contrat qui est unique au monde. Deuxième élément, l'apprentissage. Plus de 35 millions uniquement pour le groupe Adecco pour former 7300 personnes. Et bien sûr, il y a le plan de formation et le compte personnel de formation pour lequel on a beaucoup travaillé avec le ministère pour faire en sorte que ce soit quelque chose de simple, accessible pour tout un chacun. Nos équipes sont là surtout pour l'orientation. Donc voilà comment on le fait. Et puis dernier élément, vous l'avez cité, on a créé un des premiers CFA en France sur les métiers du recrutement. On en a créé un deuxième avec Sodexo, Accor et Corian sur les métiers de bouche. Donc voilà, on essaye de créer des formations modernes, attractives, parce qu'on sait qu'il y a un sujet d'attractivité aussi pour les jeunes.
Et lorsqu'on compare effectivement au niveau international, vous en avez dit un mot, mais est-ce que, je ne sais pas, aux États-Unis, en Europe du Nord, puisque je ne sais pas, en Allemagne, est-ce que vous rencontrez le même type de difficultés?
Oui, on rencontre le même type de difficultés. Il y a peut-être une différence qui justifie qu'il y ait ces réformes qui soient arrivées récemment en France. C'est que là-bas, ces difficultés, on les rencontre avec 2 à 3% de taux de chômage. En France, on est à 8,6% de taux de chômage. On a déjà ces difficultés. Et tout ce qui est fait, notamment avec le plan d'investissement pour les compétences, pour les gens éloignés de l'emploi, quand on n'a pas travaillé depuis un an, c'est difficile de revenir sur le marché. Ça justifie de faire beaucoup d'efforts parce qu'on a une main-d'œuvre disponible. Et à Davos, on en parle. L'attractivité de la France, c'est sa réforme. Mais c'est aussi le fait qu'il y ait 8% de personnes qui sont disponibles pour un emploi à condition que les entreprises les forment. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour nous.
Vous êtes en train de nous dire que les entreprises étrangères pourraient être intéressées par ceux qui sont au chômage aujourd'hui?
Tout à fait. Ce qu'on note, et dans nos grands partenaires mondiaux, jusqu'à présent, il y avait une attractivité forte. On parlait beaucoup de l'Allemagne, on parlait beaucoup de l'Angleterre. On a beaucoup parlé de l'attractivité sur l'enquête EY qui disait que la France avait retrouvé un niveau d'attractivité beaucoup plus important. Et en fait, elle le doit au fait qu'en Europe de l'Est, on ne trouve plus nécessairement autant de compétences qu'on pourrait en trouver en France. Il fallait juste un contexte qui soit favorable à cette formation. Je pense que les nouvelles réformes l'autorisent. Et en tant qu'intermédiaire, on le voit parfaitement et on essaye de l'utiliser au maximum.
Oui. comment vous voyez la conjoncture? Parce que on a bien vu les nouvelles perspectives du FMI, donc lundi soir ici à Davos, pas très encourageantes sur l'année 2020. Vous, comment vous le voyez de votre point de vue, c'est-à-dire évidemment plus sur le côté du front de l'emploi ou du chômage?
Allez. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, déjà le contexte international est très challengé en ce moment. On voit que la croissance mondiale a plutôt baissé. L'Asie se porte bien. L'Europe, c'est extrêmement difficile. Et les États-Unis, on s'attend à ce que ce soit un peu plus compliqué dans les mois à venir. Si je me concentre sur la France, en fait, on a un contexte qui, en moyenne, ça peut surprendre, mais un peu plus favorable que la moyenne européenne. On peut y voir notamment toutes les mesures liées à la consommation. On peut y voir aussi le fait que l'investissement étranger arrive enfin en France. On voyait le nombre de nouvelles usines implantées sur le territoire français. Et donc, ça crée quand même des espoirs d'avoir une conjoncture moins dégradée qu'ailleurs. Quand je dis moins dégradée, c'est-à-dire qu'on peut pas la voir de manière extrêmement optimiste, mais malgré tout, probablement plus positive qu'en Europe du Nord ou en Allemagne, par exemple.
Ici, à Davos, on parle beaucoup de l'urgence climatique, mais aussi de développement durable. Je voudrais essayer de comprendre un peu comment ça se traduit, hein, parce qu'on est beaucoup dans les bonnes intentions, les grandes déclarations, puis après, quand on rentre chez soi, en l'occurrence, pas grand-chose ne change. Chez Adecco, par exemple, la discrimination, comment est-ce que vous faites pour éviter cette discrimination? Est-ce que vous êtes pour que, je sais pas, un CV soit anonyme, on dise pas où il habite, quel est son nom, comment est-ce que vous traitez ce problème-là, qui en France est quand même très important?
C'est un sujet majeur, en fait. Le point, c'est que, je vais vous prendre juste une statistique. 15% des managers en France ont eu une formation un jour au recrutement. 85% n'ont jamais été formés au recrutement. Quand vous n'êtes pas formé au recrutement, ce que vous faites, vous recrutez en toute sécurité.
Ce que vous connaissez.
Et la sécurité, c'est le même métier, la même école, etc. Quand on a créé notre centre de formation des apprentis sur les métiers du recrutement, il s'appelle Recruter Autrement, c'est-à-dire sans CV. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que chaque jeune est moins jeune, puisque l'emploi des seniors est aussi un sujet à adresser en ce moment. On en parle beaucoup avec le rapport Sophie Bellon notamment. C'est d'aller chercher en fait le potentiel des gens et leur motivation. Et le potentiel des gens, c'est leurs compétences douces, comme on les appelle. Il y a des gens qui sont très collaboratifs, d'autres très persévérants. Et là-dessus, il existe en fait des techniques de recrutement, d'évaluation, qui ne sont pas les mêmes qu'une lecture CV rapidement faite par un manager. Voilà, notre concours, c'est ça, et on se l'applique à nous-mêmes, bien évidemment.
Est-ce qu'il faut juste cette dernière question? Est-ce qu'il faudrait presque des quotas? Quota pour les femmes. Lorsqu'on voit les comités exécutifs, la composition en France, on voit bien qu'il y a quand même un gap absolument gigantesque. Et est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à des quotas? Est-ce que quelqu'un, le groupe Adecco, se dit à un moment, pour faire bouger les choses en France, il faut aller très loin? Et des quotas sur les seniors? C'est la question du reste que je posais à Sophie Bellon lorsqu'elle est venue sur BFM Business nous expliquer en fait les mesures qu'elle demandait, qui sont pas très puissantes, j'ai envie de dire.
Je pense qu'il y a deux sujets, en fait. Il y a un sujet de comment. Parce que on peut mettre des quotas, si vous n'adressez pas, le comment, ça peut être compliqué. Et dans le comment, dans les propositions de Sophie Bellon, je prends deux exemples qui concernent notre profession. Quand vous dites, pour un senior, il faudra avoir la possibilité d'avoir des contrats de 3 ans et pas d'un an et demi et pas de délai de carence dans l'intérim, ça aide à garder les personnes à l'emploi. Le deuxième sujet, c'est de former des gens. Oui. En fait, le sujet number one, vous l'avez vu, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est que si vous formez pas les gens et si vous leur apprenez pas à apprendre plusieurs fois dans leur carrière, c'est extrêmement compliqué de rester employable. Maintenant, je vais le dire, et c'est ma conviction, je pense que les quotas qu'on a mis dans l'apprentissage sur les personnes en situation de handicap ont aidé, en fait, les entreprises à se dire, c'est un sujet qui, au-delà de l'intention, est un sujet qui est regardé. L'index sur la parité homme-femme est un autre sujet. Moi, je suis pour.
Merci beaucoup Christophe Catoire, donc le président d'Adecco pour la France et l'Europe du Nord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On voit un enjeu très important de formation. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve bien sûr ce soir avec l'interview de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Demain matin, ça sera Bruno Le Maire qui sera mon invité dans la matinale à 8h15. Et puis évidemment, l'Orage avec notamment Benoît Cœuré, l'ancien membre de la Banque Centrale Européenne et plein d'autres chefs d'entreprise.